Midi 1. Mariam, Matin Famille.
Et merci à vous une nouvelle fois de votre fidélité. Nous sommes toujours ensemble sur Midi 1, sur Midi1.com également. Et je le disais, je le rappelle à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Aujourd'hui, on parle de l'une des formes d'otite les plus courantes chez les enfants. Alors on le rappellera, à chaque changement de saison, son lot d'otite. Et en ce premier jour de printemps, justement, on fait un zoom sur les premiers signes de la maladie afin de mieux la soigner. Et pour cela, on fait le point ce matin avec notre spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale, docteur Hamida Ardaoui. Bonjour.
Bonjour Myriam, bonjour aux auditrices et auditeurs de Média Radio.
Merci à vous de répondre présente à cette invitation sur Média.
Je vous en prie, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Alors je rappelle que vous êtes avec nous en direct depuis Casablanca. Alors d'abord, on fait un zoom aujourd'hui sur l'une des otites les plus répandues justement chez les enfants. Et pourquoi plus de cas lors de changements de saison, docteur Ardaoui?
Alors oui, effectivement, aujourd'hui on parle de l'otite moyenne aiguë, qui est la forme la plus fréquente d'otite chez l'enfant.
D'accord.
Alors l'otite c'est quoi tout simplement? Généralement, pour définir le mot otite, otite ça veut dire inflammation de l'oreille. Alors l'otite moyenne aiguë, comme son nom l'indique, c'est une inflammation de l'oreille moyenne. L'oreille moyenne qui correspond à la partie de l'oreille qui comprend le tympan et la cavité qui se trouve juste derrière le tympan. Alors c'est une inflammation de l'oreille moyenne qui est d'origine infectieuse, généralement bactérienne, c'est-à-dire due à une bactérie dans 70% des cas. Alors c'est l'une des infections ORL les plus fréquentes chez l'enfant avant l'âge de 6 ans. Mmh. Et c'est la première cause de prescription d'antibiotiques chez l'enfant avant 6 ans.
D'accord.
Alors pourquoi plus d'otites durant les changements de saison? Pas oui. Durant tous les changements de toutes les saisons, mais surtout la transition automne-hiver et surtout durant l'hiver. Un petit peu vers la fin d'hiver, un peu moins. Simplement pour la fréquence des rhinopharyngites que l'enfant connaît durant ces saisons, cette saison hivernale. Alors la rhinopharyngite, ce qu'on appelle communément le rhume, c'est tout simplement une infection virale qui est due souvent à des virus qui vont coloniser le nez et les voies aériennes supérieures. Alors comment la contamination va se faire vers l'oreille? Et tout simplement, il faut savoir qu'il existe une communication anatomique entre le nez et l'oreille qui sont reliés par un conduit, une forme de conduit cylindrique, qui s'appelle la trompe d'Eustache. Alors ce conduit, c'est à travers lui que va se passer la contamination et l'infection de l'oreille. Pour expliquer ça un peu plus clairement, cette trompe d'Eustache, elle remplit plusieurs fonctions et principalement elle assure l'aération de l'oreille et donc elle va s'occuper de drainer tout le liquide qui est derrière l'oreille et de l'acheminer vers le nez. Quand on a un rhume, souvenez-vous, on a tous le nez bouché, surtout que ce soit l'enfant ou l'adulte, on a un excès de sécrétions au niveau du nez. Donc ces sécrétions vont d'une part aller bloquer ce canal, il n'y a plus de possibilité d'assurer l'aération de l'oreille, il y a une contamination vers l'oreille et d'autre part, les liquide qui est sécrété par l'oreille ne va plus être acheminé. Il y a un excès de liquide qui va se retrouver derrière le tympan et cet excès de liquide va exercer une pression sur le tympan. C'est ce qui est responsable de la douleur que ressent l'enfant. Parce qu'il faut savoir que c'est une infection de l'oreille qui est quand même très douloureuse. Donc cette douleur, elle vient de cette pression de liquide qui est derrière le tympan. Donc voilà, la fréquence s'explique surtout par le lien entre nez, oreille et la fréquence de rhume.
D'accord. Alors ces enfants à risque, j'allais dire... Docteur Ardaoui, je rappelle que vous êtes spécialiste en ORL. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement des enfants plus à risque que d'autres?
Oui, en effet, il y a. Alors, c'est une pathologie surtout de l'enfant et pas de l'adulte. Pour deux raisons principales. Pour l'immaturité du système immunitaire chez l'enfant. Donc l'enfant se bat moins bien contre l'infection que l'adulte. C'est pour ça qu'on a une fréquence élevée chez l'enfant. Et pour aussi des prédispositions anatomiques qui sont tout simplement ce canal dont je vous ai parlé, cette trompe d'Eustache, chez l'enfant, elle est plus courte et plus béante. Donc la contamination se fait beaucoup plus facilement entre le nez et l'oreille chez un enfant. Ça, je vous parle de tous les enfants. Ceci dit, il y a des enfants qui vont avoir tendance à faire beaucoup plus d'épisodes que d'autres. Et donc, il y a des facteurs de risque, bien évidemment. Alors, les premiers facteurs de risque, ça va être tous des facteurs environnementaux. Alors, le tabagisme passif, les enfants qui ont des parents qui fument et qui fument à côté d'eux, ça prédispose aux maladies, l'excès de pollution. Le séjour en crèche, les enfants qui vont en crèche font beaucoup plus d'otites moyennes que les enfants qui n'y vont pas. On a tout ce qui a tendance à faire baisser l'immunité de l'enfant, comme l'absence d'allaitement maternel. Ça, c'est un gros facteur de risque. Les enfants qui n'ont pas bénéficié d'allaitement maternel ou qui en ont bénéficié durant une durée inférieure à 3 mois, c'est des enfants qui ne sont pas protégés contre les infections. On a aussi des facteurs anatomiques, la végétation. Les enfants qui ont des végétations, c'est des réservoirs de germes au niveau du nez. Les enfants qui ont des fentes velaires ou qui ont tout simplement des dysfonctionnements de cette trompe de Staph, de ce canal entre le nez et l'oreille. Donc c'est ça un peu grosso modo les facteurs de risque qui peuvent prédisposer un enfant à faire beaucoup plus d'épisodes.
D'accord. Et afin de ne pas passer à côté justement, pour tous ces parents qui nous écoutent, quels sont donc ces premiers signes, ces premiers symptômes qui devraient nous en alerter, docteur Ardaoui?
Alors le symptôme fort, on va dire le symptôme qui est au premier plan, c'est la douleur. C'est un enfant qui va se plaindre d'une douleur, parce que la douleur de l'oreille, de l'otite moyenne, elle est quand même assez intense. Alors chez les nourrissons, enfin, qui n'ont pas encore acquis de langage oral, ça va être un enfant qui va beaucoup pleurer, qui va être très grincheux et qui va avoir tendance à porter sa main vers son oreille. Il va soit se gratter l'oreille, soit porter tout le temps sa main vers son oreille, donc ça doit alerter les parents. Et puis il y a aussi un contexte général, c'est une maladie qui va quand même affaiblir l'enfant. L'enfant va avoir un état général qui sera altéré, il va faire de la fièvre. Enfin, ils font beaucoup de fièvre, plus de 39 degrés. Il peut y avoir aussi des signes digestifs qui accompagnent le tableau. Et parfois, c'est assez trompeur. Les parents croient que c'est des intoxications alimentaires ou des gastro-entérites, alors que c'est juste des signes accompagnateurs. Donc voilà, la douleur, c'est une douleur de l'oreille qui évolue dans un contexte de fièvre. C'est surtout ça, l'otite moyenne aiguë.
D'accord.
Et puis, il peut y avoir aussi une émission de plus dans certains cas. Le liquide qui se trouve derrière le tympan peut perforer ce tympan et s'écouler à travers ce tympan. Donc, il peut y avoir une émission de plus à travers l'oreille. Ça aussi, c'est un signe qu'on peut retrouver dans des otites moyennes aiguës.
D'accord. Donc, quand on arrive chez vous, en cabinet, docteur Ardaoui, comment se passe le diagnostic?
Alors, le diagnostic, c'est tout d'abord, c'est un interrogatoire avec les parents. Donc, on essaie déjà de lister les facteurs de risque qu'a l'enfant. Et puis, on demande aux parents quels sont les symptômes qu'a ressenti l'enfant. Et généralement, quand ils nous disent que c'est une douleur de l'oreille, que l'enfant est fébrile, on s'oriente très facilement vers une otite moyenne aiguë. Et bien sûr, ceci est confirmé par l'examen. Quand on fait l'examen clinique, l'otoscopie, quand on examine l'oreille, le tympan de l'enfant, on voit clairement que c'est une otite moyenne aiguë. C'est un diagnostic qui est très aisé. Et généralement, c'est un diagnostic qui n'a pas besoin d'exploration supplémentaire. C'est un examen vraiment clinique. On n'a pas besoin de scanner ou autre pour confirmer le diagnostic.
D'accord. Alors, en termes de traitement, docteur Ardaoui, cette fois-ci, comment ça se passe?
Alors, le traitement, c'est généralement, comme je vous l'ai dit, dans 70% des cas, c'est une infection bactérienne. Donc, ça passe par l'antibiothérapie, par l'antibiotique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'antibiothérapie n'est pas systématique. On la donne pas à tous les enfants. On a aussi là des facteurs quand l'infection est très bruyante, quand il y a beaucoup de douleurs, et on a une fièvre qu'on n'arrive pas à baisser, qui dépasse les 39 degrés, là, on est amené. Et quand on a surtout un enfant qui a moins de 2 ans.
D'accord.
Là, on sait qu'on est devant un système immunitaire qui est immature et on doit aider l'enfant avec un antibiotique. C'est généralement une antibiothérapie qui ne dépasse pas les 7-8 jours. Mmh. Et l'enfant ressent une nette amélioration au bout de 24 heures, 48 heures maximum. Mais chez certains enfants, parce qu'il peut y avoir aussi, j'ai omis de vous dire ça, on peut avoir une guérison spontanée de l'otite moyenne aiguë. S'il y a des enfants
qui ont des tableaux. Mais est-ce qu'il y aurait des risques, justement, quand on parle d'otite et qu'elle est mal soignée? Cela peut avoir des risques et des complications donc plus tard.
Oui, bien évidemment, il y a des risques. Le risque, tout simplement, c'est l'extension de l'infection aux organes de voisinage. On a une infection qui est au niveau de l'oreille moyenne. Si elle n'est pas soignée ou mal soignée, l'extension peut se faire vers l'oreille interne. On peut avoir ce qu'on appelle une labyrinthite, et là, on a des conséquences beaucoup plus fâcheuses. Là, c'est vraiment on peut avoir une atteinte de l'audition, une baisse de l'audition de l'enfant et des troubles de l'équilibre et des vertiges très intenses.
Oui,
c'est un tableau qui va vraiment être handicapant.
On en parlait la semaine dernière, justement, de ces liens entre l'oreille interne et bien évidemment les vertiges. Un entretien que vous pouvez réécouter sur notre site median.com. Vous faites bien de le rappeler, docteur Ardaoui.
Oui, alors voilà, on peut avoir une extension vers l'oreille interne qui va donner ce tableau de vertige et de baisse de l'audition. On peut avoir une extension vers les méninges et le cerveau, et ça peut donner des méningites et parfois même des abcès cérébraux, mais ça, je vous parle de cas très très extrême, mais ça reste quand même assez exceptionnel. On peut avoir aussi une atteinte des structures nobles qui passent par l'oreille, comme le nerf facial, et donc qui peut en résulter une paralysie faciale, c'est-à-dire une paralysie de la face de l'enfant.
Oui.
Et puis on peut avoir aussi, ça je vous parle de toutes les complications qu'on peut avoir en phase aiguë. Chez les enfants qui font des otites moyennes aiguës à répétition, qui en font beaucoup, on peut avoir des séquelles au long cours, c'est-à-dire par exemple le liquide qui est derrière le tympan, qui s'accumule, comme je vous ai expliqué au début. On peut traiter l'infection, c'est-à-dire on peut à un moment ne plus avoir de bactéries au niveau de l'oreille, mais le liquide va persister au niveau de cette oreille. Et là, ça va nous donner une autre forme d'otite, ce qu'on appelle l'otite séromuqueuse, qu'on appelle communément l'otite séreuse. C'est une otite qui est définie par la présence d'un liquide derrière le tympan qui va avoir tendance à se pérenniser, à rester derrière le tympan et qui va avoir comme principale conséquence une baisse de l'audition de l'enfant. Donc tout ça, c'est différentes complications qu'on peut avoir en phase aiguë et en phase chronique.
Que diriez-vous à tous ces parents qui hésiteraient donc à donner des antibiotiques à leurs enfants, qui sont assez réticents et assez sceptiques donc face à ces antibiotiques?
Oui, mais oui, je comprends parfaitement la position des parents, surtout les parents qui ont des enfants qui tombent malades assez souvent. Il faut tout simplement, dans ces situations, laisser quand même le médecin prendre la décision, parce que comme je vous ai dit, il y a des tableaux d'otites chez qui on ne donne pas d'antibiotiques.
Oui.
On va juste donner un traitement qui va soulager l'enfant, réduire sa douleur, baisser sa fièvre, etc. Donc, il faut laisser quand même le médecin prendre cette décision.
D'accord.
Et cette décision, elle est prise après toutes les questions qu'on pose aux patients, l'examen clinique. Parfois, on a des orientations en fonction de la bactérie en question. D'accord ? Il y a des bactéries qui sont beaucoup plus pathogènes que d'autres. On sait que ça va pas guérir spontanément. Voilà, je sais que ça reste quand même assez délicat pour un parent d'administrer des antibiotiques à répétition chez son enfant, mais les complications peuvent être très fâcheuses, comme je viens de vous l'expliquer. On peut aller jusqu'à la méningite et l'abcès cérébral.
Alors, la chirurgie, dans quel cas, docteur Hamida Ardaoui?
Alors, l'otite moyenne aiguë, dans la phase aiguë, comme je vous ai expliqué, c'est une maladie médicale qu'on traite par un traitement médical. La chirurgie, elle intervient dans certaines formes de complications et surtout quand on passe à la chronicité, c'est-à-dire que quand on va passer à une, si on passe, jamais on passe à une otite séromuqueuse, c'est-à-dire avoir du liquide derrière le tympan qui va avoir tendance à rester plus de 3 mois derrière le tympan et qu'on voit qu'il y a un impact sur l'audition de l'enfant, l'enfant n'entend plus bien, on entend beaucoup moins bien qu'avant. Donc à ce moment-là, on peut traiter aussi médicalement. On a des traitements médicaux pour l'otite séreuse, mais quand ça marche pas, là, on peut passer à la chirurgie. C'est ce qu'on appelle les aérateurs transtympaniques. C'est des sortes de petits aérateurs qu'on va placer au niveau du tympan qui vont assurer comme fonction principale l'extériorisation de ce liquide qui est derrière le tympan et la rééquilibration des pressions de part et d'autre du tympan. On ne va plus être dans cette situation. Et puis l'enfant va surtout récupérer son audition.
En termes de prévention, est-ce qu'on peut dire qu'on peut prévenir la maladie, docteur Ardaoui, et quels seraient vos conseils à tous ces parents qui nous écoutent? Ce sera ma dernière question.
Oui, alors là, comme les facteurs de risque, ça a été plutôt tout ce qui avait tendance à détruire l'immunité des enfants. Alors la prévention, ça sera tout ce qui va avoir tendance à renforcer l'immunité de l'enfant. Donc, tout d'abord, et on n'en parlera jamais assez, l'allaitement maternel. L'allaitement, je mets 3 croix à côté de l'allaitement maternel parce que aujourd'hui, il y a des études qui ont largement prouvé que c'était un facteur protecteur de l'enfant. Surtout, là, je parle à 3 mois d'allaitement et plus. Deuxièmement, éviction du tabagisme passif à l'enfant. On ne fume jamais à côté d'un enfant. Enfin, il vaut mieux ne pas fumer tout court, mais surtout pas à côté d'un enfant. Ensuite, bon, les crèches, je sais que ça reste délicat pour certains parents qui n'ont pas le choix, mais voilà, c'est juste à titre informatif. Il faut savoir que les enfants qui vont à la crèche font beaucoup, beaucoup plus d'infections et de maladies, de la sphère ORL et des voies respiratoires que ceux qui n'y vont pas. L'alimentation saine de l'enfant, ça bâtit aussi son immunité. Et puis le traitement correct des rhinopharyngites, les rhumes, c'est-à-dire surtout ne pas laisser l'enfant encombrer. Il faut vider régulièrement le nez de son enfant parce que c'est justement ces sécrétions-là qui sont porteuses de germes, de virus qui vont aller contaminer l'oreille et créer d'autres maladies. Un enfant qui a le nez bouché, il faut lui déboucher son nez plusieurs fois par jour. Il faut faire des lavages à l'eau de mer. ça n'a aucun effet secondaire, ça va soulager l'enfant et ça va l'empêcher et de faire d'autres maladies. Donc voilà, ça va être surtout ça, la prévention. Et puis quand on est devant des formes quand même assez d'otite moyenne aiguë, où il y a beaucoup de douleurs et de fièvre, il faut quand même traiter son enfant. Il faut accepter de passer par cette antibiothérapie qui peut justement nous éviter des complications beaucoup plus fâcheuses.
Et ne pas surtout tarder à aller consulter un spécialiste.
Exactement, oui. Il faut éviter l'automédication parce qu'on reçoit beaucoup de parents qui donnent à leurs enfants des antibiotiques et malheureusement ils donnent le mauvais antibiotique. Oui. Et donc c'est vraiment pas bien pour l'enfant. Et il faut éviter l'automédication, mais aussi accepter que son enfant doit être traité quand il le faut.
Merci beaucoup, docteur Hamida Ardaoui. Je rappelle que vous êtes spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale à Casablanca. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur Médien.
Merci à vous.
Et c'est un entretien réécoutable sur notre site médien.com.